Vous écoutez, on lit pour vous.
Jambes bioniques révolutionnaires développées par des chercheurs du MIT. Un pas de géant pour les amputés. Un texte d'Antoine Ducard, paru le 3 avril 2025 dans Science et Vie. Lorsque l'on est bien portant, on marche sans y penser. Avec cette jambe bionique, il est possible de retrouver une telle sensation lorsque l'on est amputé. Le 1er juillet 2024, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, ont publié une étude dans la revue Nature Medicine. Celle-ci présente la possibilité pour les amputés de réapprendre à marcher naturellement en utilisant leur pensée et une jambe bionique. Des résultats jugés plutôt miraculeux par le professeur Yu He, l'auteur principal de l'étude. Une jambe bionique entièrement contrôlée par le cerveau. Cette jambe bionique, fruit du travail des chercheurs et des ingénieurs du MIT, peut donc être contrôlée par le cerveau. De fait, afin de permettre aux patients de marcher, elle est notamment reliée aux nerfs des muscles chargés du mouvement de la jambe. Ensuite, le membre prothétique est capable de lire les signaux d'activité résiduelle des muscles de la jambe pour activer la jambe. Dans des propos rapportés par le Guardian, l'auteur principal de l'étude ne cache pas son excitation et sa fierté quant à son invention. Personne n'a été capable de démontrer un tel niveau de contrôle cérébral qui produit une démarche naturelle où c'est le système nerveux de l'homme qui contrôle le mouvement et non un algorithme de contrôle robotique. Non seulement ils pourront marcher sur une surface plane, mais ils pourront aussi faire des randonnées ou danser, car ils auront le contrôle de leur mouvement, pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien britannique. L'histoire personnelle de Yu He. Yu He n'est pas un chercheur comme les autres, et encore moins dans le cadre de cette étude. S'il est chercheur au MIT, il était aussi un fan d'escalade et cette passion lui a coûté ses deux jambes. En effet, le scientifique de 59 ans a été amputé de ses deux membres en 1982 lorsque, pendant une excursion d'escalade, il a été pris dans un blizzard qui lui a valu de très graves engelures au niveau des membres inférieurs. Ne pouvant sauver ses jambes, les médecins de l'époque avaient donc pris la décision de les lui retirer. Et s'il a réussi à mettre au point une telle jambe bionique, il espère bien en profiter lui aussi. « Je pense le faire, se faire poser la prothèse bionique, pour mes deux jambes, dans les années à venir », déclarait-il au Guardian. Une prothèse qui fait partie de l'anatomie de la personne. Forcément impliqué dans le cas de cette étude, Yu He explique pourquoi une telle prothèse est révolutionnaire. Pour ce faire, il compare notamment une prothèse basique, sans électronique, à un simple outil pour les patients et pas comme un membre à part entière. En face de cela, quand la personne peut directement contrôler et ressentir le mouvement de la prothèse, elle devient une véritable partie de l'anatomie de la personne, précise-t-il au journal anglais. De plus, les résultats de l'étude montrent quelque chose d'intriguant. En effet, cette jambe bionique permettrait donc de remarcher naturellement et quasi tout aussi vite que des personnes bien portantes. Par rapport à une cohorte d'amputés appariés sans augmentation des afférences, la vitesse de marche maximale de la neuroprothèse est augmentée de 41%, ce qui permet d'atteindre des vitesses maximales équivalentes à celles des personnes sans amputation de la jambe, peut-on notamment lire au tout début de l'étude publiée dans Nature Medicine. Si l'étude portait surtout sur la possibilité de marcher à nouveau grâce à une jambe bionique contrôlée par le cerveau, les chercheurs du MIT précisent, dans le journal de l'Institut, qu'une telle avancée pourrait également s'appliquer aux amputations du bras. C'était « Jambes bioniques révolutionnaires développées par des chercheurs du MIT. Un pas de géant pour les amputés. » Un texte d'Antoine Ducard, paru le 3 avril 2025 dans Science et Vie.
La tarification sociale plus équitable que la gratuité pour les aînés selon Trajectoire Québec. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir. La gratuité des transports collectifs plaît aux aînés montréalais, mais il ne s'agit pas du programme le plus approprié et le plus équitable pour venir en aide aux plus démunis, estime Trajectoire Québec. L'organisme plaide plutôt en faveur d'une tarification sociale basée sur le revenu des usagers, une mesure déjà en vigueur dans plusieurs villes au Québec. À l'approche des élections municipales de novembre prochain, le sujet pourrait devenir un des enjeux de la campagne à Montréal. Trajectoire Québec s'est penché sur la question de la tarification sociale pour les transports en commun, qui avait fait l'objet d'une promesse électorale à Montréal en 2017 et en 2021. Une telle mesure comporte plusieurs avantages. Elle permet de briser l'isolement des personnes à faible revenu, leur accorde une liberté dans leurs déplacements et un sentiment de fierté, souligne Trajectoire Québec. Devoir dépendre de services gratuits contribue à des sentiments négatifs pour les bénéficiaires, soutient Philippe Jacques, co-directeur général de l'organisme. Plusieurs villes au Canada ont mis en place une tarification sociale, dont Toronto, Calgary, Ottawa, Edmonton, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Lévis. En fait, Montréal est l'une des rares exceptions parmi les grandes villes avec Vancouver, fait remarquer Brian Nash, conseiller aux communications chez Trajectoire Québec. La Ville de Québec a implanté la tarification sociale en avril 2023. Cette mesure coûte environ 1 million de dollars et bénéficie à quelques 15 000 personnes, soit un peu moins de la moitié de la population considérée comme à faible revenu dans l'agglomération. Gatineau a mis en place son programme en 2018, ce qui a permis de hausser de 26 % le nombre de personnes à faible revenu parmi les usagers des transports, souligne Trajectoire Québec. Pour sa part, Calgary consacre 22 millions annuellement à son programme, mais elle évalue que, pour chaque dollar investi dans la tarification sociale, environ 12,25 $ reviennent à la société en revenus indirects, indique M. Nash. Les usagers moins nantis peuvent obtenir une carte mensuelle à des prix allant de 6 $ à 59 $. Implanter la tarification sociale à Montréal coûterait autour de 30 millions de dollars, estime Brian Nash, soit moins que la gratuité offerte aux aînés montréalais, près de 40 millions, à la première année du programme. Campagne électorale. Cette mesure pourrait figurer parmi les enjeux de la prochaine campagne électorale à Montréal. Le candidat à la mairie de Projet Montréal, Luc Rabouin, a affirmé qu'il maintiendrait la gratuité pour les aînés si son parti était reporté au pouvoir le 2 novembre 2025. Et qu'en est-il de la tarification sociale? L'implantation d'une tarification sociale du transport en commun demeure notre souhait. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure qui a fait ses preuves dans plusieurs autres villes, indique l'attachée de presse de M. Rabouin, Béatrice Saunier-Yel. La gratuité pour les aînés et pour les enfants de 11 ans et moins représente une première étape vers une tarification sociale, ajoute-t-elle. Malgré les difficultés encourues par le sous-financement du transport collectif, nous maintenons notre engagement envers un transport collectif plus accessible et efficace. De son côté, la nouvelle chef d'ensemble Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, est plus catégorique. Je pense que, dans une situation financière difficile et avec tous les programmes sociaux qu'on administre à Montréal, il faut qu'on s'assure d'aider les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui en ont le plus de besoin. Je pense qu'une tarification sociale fait ça. Selon elle, une telle mesure pourrait être mise en place dans un premier mandat, mais elle entraînerait une révision de la gratuité qui s'applique actuellement aux Montréalais de 65 ans ou plus. Trajectoire Québec estime que la tarification sociale ne devrait pas se limiter aux Montréalais, mais être appliquée dans toutes les municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM. Les villes de la CMM qui en bénéficieraient pourraient contribuer financièrement. Certaines villes ont déjà des tarifications sociales pour des domaines autres que le transport collectif. Elles connaissent déjà le processus. Alors, je pense que c'est faisable, explique Brian Nash, mais ça dépend de l'appui politique. C'était la tarification sociale plus équitable que la gratuité pour les aînés, selon Trajectoire Québec. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir.
Derrière le spectacle de la frontière sud des États-Unis, des refuges vides et un cru historique de migration. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir. Les interceptions à la frontière sud des États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies en février 2025, poursuivant une baisse déjà amorcée durant la dernière année du gouvernement Biden. Alors que Donald Trump continue à vanter son programme d'expulsion massive d'immigrants et que la peur se répand, la professeure de géographie et membre du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, Patricia Martin, est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis le début mars pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Que constatez-vous en parcourant la frontière avec vos yeux de chercheuse? Ce que je vois en ce moment est que, malgré le discours du gouvernement contre une invasion massive de personnes, les hébergements sont totalement vides. Je suis à McAllen, dans le sud du Texas, et dans un refuge assez connu qui est d'ordinaire plein. Il n'y a que 2 ou 3 familles. À la mi-mars 2025, j'ai aussi traversé la frontière à Reynosa, au Mexique, et c'était la même chose. Dans un campement que j'ai visité, il n'y avait que 3 familles qui attendaient pour voir la suite des choses. Le lieu compte habituellement des milliers de réfugiés. Qu'est-ce que cela signifie plus largement, selon vous? C'est un réel contraste avec le discours officiel, une dissonance. Pour moi, ces espaces vides signifient une invisibilisation des crises humanitaires, de la violence et de la souffrance qui poussent les gens à migrer. Et aussi, où sont les gens qui ne sont plus ici? Expulsés vers leur pays d'origine? Sont-ils en danger? De mon point de vue, le vide créé en réponse aux politiques très dures des États-Unis, c'est possiblement la fin de la notion de droit de la personne et du principe d'asile en matière de migration. C'est très frappant. Peut-on réellement parler d'une zone militarisée? Je dis toujours qu'on ne peut pas penser à la frontière comme une ligne. C'est plutôt un complexe de différents types de contrôles migratoires. Il y a, oui, la frontière où on va traverser, puis le mur, qui n'est pas exactement au même endroit, parfois séparé par plusieurs mètres ou même des kilomètres. Il y a beaucoup de barbelés, des gardes, des caméras de surveillance, des drones. C'est une architecture très hostile et intimidante. En plus du poste frontière, il y a un point de contrôle à Falfurrias, plus de 100 km au nord de McAllen, où on vérifie systématiquement les papiers, les preuves de citoyenneté ou de statut migratoire. En même temps, il y a une présence très importante des forces de l'ordre, tant des agences fédérales que de l'État du Texas, plus de 30 000 agents des forces de l'ordre. Je pense que ce spectacle de la frontière prépare le terrain pour le projet massif d'expulsion prévu par Donald Trump. Le Texas est le Ground Zero, le test pour la politique nationale du président. Tout cela affecte beaucoup les communautés transfrontalières, où il y a une sociabilité qui est profondément menacée. se visiter, aller à l'école ou au travail de part et d'autre est de plus en plus compliqué. Que comptez-vous recueillir comme information? Je suis ici pour mener un projet de recherche sur les pratiques de solidarité, de soins et d'hospitalité envers les migrants et les immigrants et dans un contexte transnational au Canada, à la frontière sud des États-Unis et aussi au Mexique à la fin du mois de mars 2025. Leur parcours montre leur capacité à agir et à créer des communautés, même dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut montrer ces autres types d'histoires, au-delà des discours de peur autour de la frontière, une frontière faite pour les briser. Enregistrer une autre manière de la voir humanise les gens, tant les migrants que nous-mêmes. Le Canada et le public d'ici devraient-ils se sentir concernés par ce qui se passe là où vous êtes? Il s'agit d'un moment important pour réfléchir sur nos propres frontières, qui elles représentent et les conséquences qu'elles ont. Le Canada a signé l'entente sur les tiers pays sûrs, élargie en 2023, mais les États-Unis ne sont pas un pays sûr, ni pour les personnes migrantes, ni pour les demandeurs d'asile. On a suivi la vision des États-Unis. Notre politique de la frontière est très influencée par les Américains et on y perd, par le fait même, une partie de notre propre souveraineté. Il faut revenir sur nos propres valeurs, les droits fondamentaux et nos obligations internationales et comment les montrer avec ces politiques plutôt que d'appuyer la guerre contre les migrants de Trump. La manière dont le Canada est traité actuellement par les États-Unis indigne beaucoup de gens. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose de similaire dans notre manière de traiter les autres, les personnes migrantes. Il faut sortir de l'entente. Expulsé d'ici, détenu au Texas. Pour terminer la conversation, Patricia Martin fait référence à un cas rapporté par le New York Times à la mi-mars. Une famille, arrivée du Venezuela il y a 2 ans, qui travaillait en Ohio, avait décidé de tenter de traverser au Canada à cause du retour de Donald Trump au pouvoir. Ils ont été arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada et renvoyés aux États-Unis, puis détenus à Buffalo durant 20 jours, y compris leurs enfants de 6 et 8 ans, a indiqué leur avocate au grand quotidien américain. Ils ont ensuite été transférés de l'État frontalier de New York vers le Texas. La pratique de renvoyer des personnes de la frontière canadienne au Texas est courante depuis l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs en 2023. Les centres de détention des immigrants sont d'ailleurs en train d'être préparés pour enfermer davantage de familles, une pratique décriée depuis de nombreuses années. C'était derrière le spectacle de la frontière sud des États-Unis, des refuges vides et un creux historique de migration. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir.
Un petit chèque avec ça? Une chronique d'Hélène Bouzetti, parue le 10 avril 2025 dans La Tribune. C'est une affaire d'électoralisme crasse, couplée à une grande injustice. Tous les Canadiens s'apprêtent à recevoir un chèque du gouvernement canadien quelques jours à peine avant le scrutin du 28 avril prochain. Tous? En fait, non. Les Québécois n'auront pas leur part du copieux gâteau de 3,7 milliards. On se demande ce qu'en dira Yves-François Blanchet. Le gouvernement fédéral imposait, jusqu'au 31 mars dernier, une taxe carbone sur les combustibles fossiles dans les 8 provinces ne s'étant pas dotées d'une tarification climatique. Seuls le Québec et la Colombie-Britannique étaient épargnés, le premier ayant adhéré à une bourse du carbone et la seconde ayant créé sa propre taxe carbone. Pour apaiser la colère suscitée par cette taxe, Ottawa l'avait accompagnée d'une remise prenant la forme d'un chèque envoyé 4 fois par année. Le gouvernement fédéral calculait combien il récoltait dans chaque province et y retournait 90 % de ce total aux résidents. La balance servait à financer des programmes de transition énergétique. Et comme la taxe était payée par tous les consommateurs, incluant les corporatifs, mais retournée seulement aux individus, dans 8 cas sur 10, les citoyens empochaient plus que ce qu'ils payaient. Cet argument n'a jamais percolé auprès de la population et la colère a eu raison de cette politique avec l'arrivée de Mark Carney à la tête du Parti libéral. En abolissant la taxe, toutefois, le gouvernement Carney a pris une décision très controversée, néanmoins passée à peu près sous silence. Il a choisi de ne pas abolir immédiatement la remise. Celle qui était prévue en avril pour le second trimestre de 2025 ira de l'avant comme prévu. Et là est tout le problème. Un cadeau pas payé. Cette remise a toujours été prospective et non rétroactive, c'est-à-dire qu'elle servait à couvrir ce que les citoyens allaient payer en taxes au cours des 3 prochains mois et non pas leur rembourser ce qu'ils avaient déjà payé au cours des 3 derniers. Le ministère des Finances l'écrit noir sur blanc sur son site Web. Les paiements versés aux Canadiens en avril remettent les produits de la redevance sur les combustibles perçus durant le trimestre d'avril à juin. Vous pensez qu'on coupe les cheveux en 4? Détrompez-vous. Cette décision a un impact budgétaire très réel. Auparavant, la remise ne coûtait pas un sou à Ottawa, financée qu'elle était par les revenus de la taxe carbone. La petite dernière d'avril aura au contraire un coût net d'environ 3,7 milliards. C'est beaucoup, 1,5 milliard de plus que ce que coûtera le programme dentaire cette année. Interrogé lundi, Mark Carney a expliqué qu'il était au courant et qu'il avait fait ce choix de manière délibérée. Il entend accorder une baisse d'impôts aux Canadiens, mais n'a pas eu le temps de la faire voter dans ses 9 jours comme premier ministre, a-t-il dit. Ce dernier chèque, donc, permet de faire le pont. Sauf qu'en procédant ainsi, M. Carney crée une injustice flagrante pour les Québécois. Ils n'auront pas droit, eux, à ce pont. La cagnotte électorale ne leur sera pas accessible. On nous dit en coulisses que c'est normal puisque le Québec a son propre système. Mais dans la mesure où la remise ne sert plus à rembourser ce qui sera payé, en quoi est-ce encore pertinent? Les Britanno-Colombiens non plus n'auront pas de chèque fédéral. Mais leur province a, elle aussi, décidé d'abolir sa taxe carbone et de verser la remise prévue en avril. Ils auront donc, eux aussi, un chèque. L'injustice, dans leur cas, réside dans le fait que c'est Victoria, plutôt qu'Ottawa, qui épongera la facture. Injustice pour tous. L'injustice, ceci dit, n'est pas qu'envers les Québécois et les Britanno-Colombiens. Elle est aussi entre les Canadiens eux-mêmes. La remise, qui n'en est plus une, sera encore modulée en fonction de la province de résidence. Cette modulation existait parce que la moyenne de consommation de carburant varie d'une province à l'autre. Dans certaines, on se chauffe davantage au mois d'août, dans d'autres, on conduit de plus gros véhicules. L'Alberta recevait les plus grosses remises et l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse les plus petites. Qu'importe si ces variations de consommation ne sont plus pertinentes. Pour le dernier versement d'avril, une famille de 4 personnes recevra encore 220 $ à Halifax, mais 456 $ à Calgary. L'équipe libérale de Mark Carney a été incapable d'expliquer la logique derrière cette décision. On se limite à dire que les familles s'attendaient à recevoir ce chèque et qu'on n'a pas voulu les décevoir. On comprend pourquoi. Les dépôts doivent se faire le 22 avril, une semaine avant le scrutin. Voilà qui résume bien toute l'incohérence et l'irrationalité qui ont caractérisé le débat public entourant ce dossier. Les citoyens ont pris la taxe en grippe parce qu'ils refusaient d'admettre que la remise les compensait largement, mais ils auraient été fâchés de perdre cette remise. Un cadeau dont on n'a pas les moyens. Le problème n'est pas tant que le Québec n'a pas sa part que le fait qu'on distribue des bonbons électoraux dont nous n'avons pas les moyens. Le déficit pour l'année en cours est prévu s'établir à 48,3 milliards. D'un coup de baguette magique, le voici rehaussé à 52 milliards. C'est sans compter toutes les autres promesses faites sur les chemins de campagne jusqu'ici. Où cela nous mènera-t-il? Cela ressemble beaucoup au chèque d'Éric Girard en 2022, juste avant l'élection, 500 $ à tous, et après, entre 400 et 600 $ selon les revenus. Cela avait privé Québec d'un total de 6,7 milliards. Et que réalise-t-on 2 ans plus tard? Que le déficit est plus monstrueux que jamais et que le gouvernement est obligé de mettre sur la glace ou de ralentir d'importants projets d'infrastructure comme l'aménagement de voies réservées au transport collectif à Québec, le doublement de l'autoroute 50 en Outaouais ou la rénovation à Montréal de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pourtant décrépit. Tout cela donne aujourd'hui un goût bien amer à ces chèques. Mais les Québécois peuvent se compter chanceux. Ils n'y goûteront même pas cette fois-ci. C'était un petit chèque avec ça. Une chronique d'Hélène Bouzetti, parue le 10 avril 2025 dans La Tribune.